Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro en direct du Buzz TV de TV Magazine. Nous sommes partis pour une demi-heure de direct avec vous, toutes vos questions et notre invité du jour qui a pour habitude de décrypter un univers impitoyable et complexe où le mensonge et honte croisent parfois sur son chemin la trahison insidieuse. Ce monde passionnant de la politique, elle l'observe avec attention depuis bien des années sur BFM TV où cette journaliste est restée plus de 15 ans et sur LCI où elle incarne depuis la rentrée un rendez-vous quotidien. Mais réduire cette journaliste au rôle de simple présentatrice, eh bien ce serait lui faire insulte, car elle s'apprête à prendre les rênes d'une confrontation appétissante entre deux prétendants à l'Élysée. Bonjour Ruth Elkrieff.
Bonjour.
Bienvenue sur le plateau du Buzz TV.
Merci beaucoup.
C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Alors vous animez la tranche entre 20h et 22h, c'est du lundi au jeudi sur LCI. Après-demain, vous animerez le deuxième débat de la primaire des écologistes, toujours sur LCI en première partie de soirée. Mais tout d'abord, une question sur votre retour à LCI. Vous avez participé à la création de cette chaîne en 1994, on le rappelle. Vous y revenez en 2021. J'imagine toute l'émotion que vous avez dû ressentir lorsque les caméras se sont allumées fin août et que vous avez repris votre...
Alors avant de répondre à cette question, je précise en effet que le mot animateur n'est pas tout à fait le bon et que d'abord on est journaliste et que c'est totalement évidemment un autre regard et un autre travail. Mais ce n'est pas du tout pour... Animateur est un beau métier parce qu'il y a beaucoup d'énergie à donner, mais le travail qu'on fait évidemment est celui de journaliste. Bon, je suis revenue à LCI, c'était très naturel. Ouais. C'était l'autre chaîne info qui m'intéressait, qui m'a toujours intéressée, dont j'ai suivi les différentes aventures. Et ça a été une rencontre avec Gilles Pélisson, Thierry Tulier, Fabien Namias. Tous les trois étaient... on a des relations amicales et de travail. Donc, ça s'est passé tout naturellement. Moi, je voulais un peu me renouveler. Je voulais un peu donner une énergie nouvelle. Je voulais retrouver une forme de rebond dans ma vie et dans ma carrière. Et nos envies se sont rencontrées.
J'imagine que le LCI que vous avez connu dans les années 90 est bien différent du LCI que vous découvrez aujourd'hui en 2021. Qu'est-ce qui a changé foncièrement ?
Mais tout a changé. À l'époque, en 94, c'était la première chaîne info. Elle était sur le câble. On inventait tout. Ouais. Aujourd'hui, le paysage, vous voyez bien, 4 chaînes info, une forte compétition, beaucoup de professionnalisme dans toutes les chaînes. En même temps, une forme de positionnement de chacune assez marquée. Donc c'est un autre paysage. Ça n'a plus rien à voir. Et la seule chose qui est toujours là, c'est le professionnalisme et l'envie et le goût de l'info et le goût de l'événement et puis l'attention à ce que souhaitent les spectateurs.
Et ce paysage de l'information en continu, justement, on va en parler tout à l'heure dans l'interview du Buzz TV. En attendant, je rappelle que nous sommes en direct sur Figaro Live, sur la page YouTube de TV Magazine et sur lefigaro.fr. Vous pouvez poser toutes vos questions à Ruth Elkrieff. Est-ce que vous avez suivi le premier débat de la primaire des écologistes ? Quel regard portez-vous sur la trajectoire de carrière de Ruth Elkrieff, vous pouvez nous poser toutes vos questions. On y revient dans quelques instants après les news médias de Sarah Lecoeuvre. Bonjour Sarah.
Bonjour Damien, bonjour Ruth.
Bonjour Sarah.
Alors Sarah, c'est parti avec les audiences. Quelle chaîne est arrivée en tête du classement hier soir ?
Eh bien c'est TF1 grâce au film Chamboule tout, porté par Alexandra Lamy et José Garcia. Un peu plus de 4 400 000 téléspectateurs étaient au rendez-vous, ce qui représente 21,9% de part d'audience. La Une est donc en tête, suivie par M6 qui proposait un numéro inédit de Zone interdite dans les coulisses de l'Élysée. Eh bien ça a passionné 2 400 000 Français et 12,2% de part d'audience. France 3 n'est pas loin derrière avec Night and Day, ce long métrage avec Tom Cruise qui a réuni 2 300 000 personnes. Puis je voulais terminer sur ce joli score d'Arte grâce au film Zodiac de David Fincher. Un peu plus d'1,5 million de téléspectateurs rassemblés et 7,6% de part d'audience.
Alors on sait que les audiences sont cruciales, hein, notamment pour les chaînes privées. On a coutume de dire que sur le service public, après 20 ans, on ne regarde pas trop. Vous, est-ce que vous avez un objectif d'audience justement sur votre tranche entre 20h et 22h ?
Sincèrement, on est vraiment dans une recherche d'abord de qualité, évidemment d'audience. On ne travaille pas pour personne, hein. On travaille pour être écouté et pour être entendu et pour diffuser des idées. Mais à cette heure-ci, on est dans la construction. On est dans la construction d'une nouvelle émission, 20h-22h, avec une partie actualité politique, une partie invitée, une partie avec des intellectuels et des polémistes. Donc c'est une grosse machine malgré tout sur 2 heures. Et donc d'abord, c'est mettre les fondations de la maison, bien positionner tout le monde, savoir exactement ce qu'on veut. Sur plan des invités, on est gâtés, puisqu'on a eu Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Nicolas Dupont-Aignan, le professeur Arnaud Fontanet du Conseil scientifique. Ce soir, Jean-Luc Mélenchon. La semaine prochaine, bon, beaucoup de belles surprises. Donc voilà, il n'y a pas de problème, mais c'est une construction. On va être prêt bientôt, dans une semaine, 10 jours, on sera tout à fait complet au rendez-vous. Et là, on commencera à regarder et à avoir des objectifs d'audience. Pour le moment, on est dans une phase de construction.
On est en rodage, donc. Allez, on continue ces news médias avec une bien triste nouvelle, la disparition d'une figure phare de l'Olympique de Marseille, mais aussi de Touche pas à mon poste.
Oui, hier, René Malville, qui était un fervent supporter du club de la Cité phocéenne et ancien membre de l'équipe de Touche pas à mon poste, s'est éteint des suites d'un cancer. Il était âgé de 73 ans. Cyril Hanouna s'est dit dévasté par cette nouvelle. Je l'aimais tant, il a marqué l'histoire de ma vie, a-t-il écrit sur Twitter. Les chroniqueurs également, comme Géraldine Maillet, Bernard Montiel ou encore Valérie Benahim, ont exprimé leur tristesse. Le Touche pas à mon poste de ce soir va évidemment lui rendre hommage.
Allez, on termine ces infos médias avec une question que vous êtes posée ce week-end. Sarah, vous n'aviez pas grand-chose à faire, il faut le reconnaître. Le départ d'Éric Zemmour a-t-il eu une incidence sur les audiences de CNews ?
Oui, tout à fait. Alors, il faut rappeler pour ça que lundi dernier, la chaîne du groupe Canal Plus s'est séparée de son éditorialiste star, le CSA imposant désormais aux chaînes de décompter le temps de parole de celui dont on présage la candidature à la présidentielle. Alors depuis lundi, Christine Kelly est sans son D'Artagnan, seulement entourée de ses mousquetaires, comme elle aime les surnommer, qui débattent. Eh bien, les chiffres parlent d'eux-mêmes. La chaîne CNews accuse une légère baisse. En moyenne, la semaine dernière, du lundi au jeudi, près de 570 000 téléspectateurs étaient rassemblés contre près de 700 000 fans la semaine précédente. Dans le détail, ils étaient quasiment 600 000 devant la première sans Éric Zemmour. Et c'est à partir de mercredi que l'audience a baissé, passant sous la barre symbolique des 600 000 personnes.
Ruth, je voulais vous poser une question. Est-ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a eu raison de contraindre CNews à décompter le temps de parole d'Éric Zemmour alors qu'officiellement, il n'est pas encore candidat à l'élection présidentielle ? C'est un éditorialiste.
Moi, je ne vais pas commenter la décision du CSA, mais effectivement, on voit bien qu'il y a une logique de la part d'Éric Zemmour et qu'elle se confirme chaque jour. C'est maintenant une question peut-être de semaine, peut-être de jour. Et ça, c'est l'observation générale. Après, le CSA est indépendant et il a pris sa décision.
Est-ce que vous pensez que les éditorialistes engagés sur l'échiquier politique, parce qu'on sait qu'il y a à la télévision des journalistes de gauche, des éditorialistes de gauche, de droite, est-ce que vous pensez que le CSA devrait, au nom du pluralisme politique, décompter les temps de parole des éditorialistes ?
Moi, je crois que là, c'est très, très différent sur Éric Zemmour. C'était un acte de candidature ou pas, et et ça a engagé toute une chaîne. Mais encore une fois, je n'ai pas à me prononcer là-dessus. Je pense qu'on a le mérite et la chance d'être dans un pays démocratique dans lequel toutes les opinions peuvent être représentées. C'est un énorme privilège quand on voit tous les autres pays. Je ne sais pas comment vous dire. Moi, comme je suis journaliste, je ne me mets pas dans la place d'un régulateur. C'est pas moi qui regarde la régulation du paysage. Ce n'est pas mon raisonnement. Mon raisonnement, c'est l'expression de chacun et la liberté d'expression, c'est sûr.
Et la liberté d'expression, la pluralité des opinions, on va le voir sur LCI dans très peu de temps, ce mercredi plus précisément, à l'occasion du deuxième débat de la primaire des écologistes. On en parle tout de suite dans l'interview du Buzz TV. Alors, ce mercredi, vous arbitrerez, changer de verbe, vous n'allez pas animer, vous allez arbitrer le deuxième débat de la primaire des écologistes.
C'est vrai que c'est un peu plus, c'est beau.
Même si c'était très courtois sur le premier, on ne peut pas trop parler d'arbitrage, mais on va en parler dans quelques instants. Les résultats du premier tour sont tombés hier. Sandrine Rousseau et Yannick Jadot vont s'affronter donc pour l'investiture lors de la prochaine course à l'Élysée. Déjà, en tant que journaliste politique, comment avez-vous réagi lorsque vous avez découvert ces résultats ?
Sincèrement, je pensais que ce serait le duo qui arriverait en tête. Je ne savais pas dans quel ordre, je ne savais pas quels pouvaient être les écarts, mais il me semblait naturel. Mais après, les électeurs écologistes sont très imprévisibles, on l'a vu à plusieurs reprises. Donc, ça pouvait être très différent, mais la logique politique était qu'il y avait deux lignes assez clairement différentes, pour ne pas dire opposées, et qui, si c'était logique, devaient se dégager. Et donc, ils étaient les deux représentants de ces lignes parce qu'Éric Piolle, même s'il était assez proche de Sandrine Rousseau, finalement, n'a pas réussi à faire suffisamment entendre sa différence. Donc, la logique était que c'était les deux qui allaient arriver. Après, les écarts, les chiffres, l'ordre d'arrivée, tout ça, je l'ai découvert hier, comme vous, évidemment.
Mais vous avez déjà animé arbitré. Un premier débat. Allez. Pardon, je vais faire l'erreur.
Non. Oh, ça y est,
c'est arrivé là.
Non, c'était une petite note. Non.
Le 8...
Il y a un côté d'animation, oui, bien parce sûr. Qu'il faut et des sourires et des rebonds.
Relancer
et écouter et être aussi un élément du climat, de l'atmosphère sur un débat, bien sûr.
Et c'est ce que vous avez fait très bien d'ailleurs le 8 octobre dernier, avant le premier tour, entre les 5 candidats. Pourquoi réorganiser un deuxième débat? Est-ce que tout n'a pas été un petit peu dit finalement?
Ah bah non, mais là on est dans le débat. Je dirais que le premier tour, c'est une forme d'exposition. Il y a beaucoup d'électeurs qui devaient se renseigner pour savoir qui était qui, ce qu'ils voulaient, qu'est-ce qu'ils proposaient. Et mon travail, c'était de permettre à chacun de s'exprimer avec le même temps, avec la même écoute, avec le même respect, pour que les électeurs soient informés et sur le plus de sujets possibles. Là, on est dans un débat qu'on a appelé décisif, qui est le choix. C'est l'heure du choix pour ces électeurs. Et donc, on est dans une autre dimension et où, évidemment, je vais essayer de faire en sorte qu'ils se regardent dans les yeux et qu'ils aillent un peu au fond des choses. Donc, c'est normal et c'est utile pour tous leurs électeurs de choisir entre les deux finalistes. C'est un classique de l'élection présidentielle française en général, de toute façon.
On va aller du côté des internautes dans quelques instants. Mais d'abord, une question, parce que c'est vrai que le débat du premier tour était de très bonne tenue. Ça a été d'ailleurs remarqué par beaucoup de téléspectateurs. Est-ce que quand on est journaliste comme vous, que l'on arbitre un tel débat, est-ce que l'on rêve pas justement d'un peu plus de confrontation quand même entre les candidats, d'un peu plus de punchline, comme Jean-Luc Mélenchon que vous aurez ce soir par exemple à l'Art de Faire? Est-ce qu'on rêve pas de ce genre de situation?
Moi j'avais, dans nos discussions avec les écologistes, on avait dit qu'on ferait un débat sur l'écologie. Et c'est ce qu'on a fait, voilà. Et donc moi je considère qu'être sur le fond, c'est faire son métier. C'est d'abord ça, tenir parole vis-à-vis des candidats qui souhaitaient qu'on en parle et c'était essentiel. Et puis même, c'est la logique. Donc, je n'étais pas spécialement à la recherche de punchline. Il y a eu des moments d'échange, mais j'étais vraiment, on était une très grosse équipe. Vous imaginez bien combien on était à préparer cette émission. Une équipe qui s'est vraiment dédiée complètement à l'événement, dans la recherche du fond et d'un discours sur l'écologie qui a été aussi pédagogique, qui a été aussi respectueux de ses électeurs qui cherchaient à s'informer. Donc, moi, j'ai aucun regret. Je suis tout à fait satisfaite de ce qui s'est passé.
Allez, on va du côté des internautes sur la page YouTube de TV Magazine, notamment.
Exactement. Et j'ai une question de Sandra sur Twitter qui se demande si Sandra Rousseau pourrait créer la surprise. Sandrine Rousseau, peut-elle créer la surprise?
Ah, mais bien sûr, elle peut créer la surprise de ce scrutin. Et bien sûr, par définition, il y a deux candidats. Donc l'un ou l'autre va gagner, si vous voulez. Oui, et moi, je n'ai pas de pronostic sur qui peut gagner par rapport à l'autre. Hein. Non.
Alors, ce débat se passe sur LCI, on le rappelle. C'est la seule chaîne d'information en continu, d'ailleurs, qui accueille ces deux confrontations d'opinion.
On est les seuls à faire le deuxième débat, oui, absolument.
Effectivement. Pour que les téléspectateurs comprennent bien, pourquoi ça se passe sur LCI et pas sur BFM TV, CNews, comment ça se passe en coulisses, en fait, ce genre de débat, en fait? Comment ça se négocie?
En fait, chacun fait une offre. On explique un peu comment on conçoit le débat, on détaille, on donne un plan, on donne nos partenaires, le Figaro en est avec LCI, mais il y a aussi Loopsider qui est un site digital pur, très intéressé par les questions d'écologie, ça a compté aussi. Et puis, c'est une question de confiance à un moment donné, une question de fiabilité, je dirais, et de dialogue et d'image. Voilà, LCI a une image aussi de fond, de sérieux et aussi de savoir monter un événement avec, parce que vous avez vu les moyens, l'image, le décor, enfin, de qualité. Et je crois que tout le monde a été satisfait.
Alors, nous avons appris hier que BFM TV organiserait ce jeudi un débat entre Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, qui officiellement, on le rappelle, n'est pas encore candidat. Est-ce que vous ressentez, vous, en tant que journaliste ancienne de BFM TV, une légère pointe de jalousie face à cette affiche qui, c'est vrai, est assez alléchante quand même?
Moi, je ne suis pas jalouse. Moi, chaque jour est un jour intéressant où il se passe quelque chose. Et qui sait ce qui va se passer vendredi, samedi, dimanche, lundi prochain, mardi prochain? Vous voyez ce que je veux dire? C'est très bien, tout est bien. Il y a un paysage de chaîne info, un paysage. Il y a aussi, vous savez, ce soir-là, il y a aussi sur France Télévisions une émission politique avec bien Valérie sûr. Pécresse ouais. et Gérald Darmanin. Donc
Élysée 2022.
Donc c'est la vie démocratique. Mmh. Et je salue, moi, tous les événements démocratiques. Et vous savez, sur LCI, tous les jours, il y en aura.
Mais enfin, malgré
très,
tout, ce...
très régulièrement, il y en aura.
Ce genre d'affiche, est-ce que ça ne fait pas saliver une journaliste politique comme celle que vous êtes?
Qui vous dit que je ne l'ai pas eu?
Quelle la salive ou le...
Non, mais voilà, tout est très bien. Ouais. On aura aussi beaucoup d'événements sur LCI et je pense que cette année sera passionnante parce qu'il y aura un certain nombre d'acteurs. On voit qu'il y a des surprises. Mm. En fait, c'était une élection présidentielle qui s'annonçait un peu courue d'avance avec un duel annoncé et tout. Et on voit déjà que ça bouge beaucoup. Ouais. Alors, vous imaginez tout ce qui va se passer dans les semaines qui viennent.
Avec notamment Éric Zemmour, ce nouvel acteur qui entre dans la campagne présidentielle, hein, même s'il n'a encore pas officiellement annoncé, mais bon, on comprend qu'il va très certainement l'être. De quel œil vous voyez-vous cette candidature-là, un ancien journaliste qui se lance dans la candidature à l'Élysée ?
Alors, dès qu'il a commencé son émission sur CNews et qu'elle a eu un certain succès, je me suis dit, j'ai dit à mon équipe, il sera candidat.
Vous en étiez sûr?
C'est mon expérience de journaliste politique. Je me suis dit, je connais l'effet de la télévision, ouais. Je connais l'effet d'un succès télévisé pour une personnalité que je connais. Et ça pourrait très bien aboutir. Après, ça pourrait ne pas aboutir à ensuite. Il peut aussi changer d'avis en novembre, en décembre. Il peut ne pas recueillir assez de fonds, il peut ne pas recueillir assez de parrainage. Tout ça, moi, je ne peux pas dire du tout ce qui va se passer. Mais qu'il en ait la tentation... me paraissait assez prévisible.
Et vous pensez que c'est crédible, sa candidature ?
Non, mais je n'ai pas à m'exprimer là-dessus, au sens où je l'observe. L'observe. Je vois les sondages, je vois l'attente et ce qui se passe. Pour moi, c'est un symptôme, entre guillemets. C'est-à-dire, c'est un révélateur. C'est qu'est-ce qu'il veut dire ? C'est ça qui m'intéresse comme journaliste politique. Ce succès éventuel, aujourd'hui, et c'est l'écho, je dirais même pas succès, l'écho qu'il suscite. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Qu'est-ce qu'il veut dire sur l'opinion publique française ? Qu'est-ce qu'il veut dire sur les attentes des Français ? C'est ça qui m'intéresse, c'est de l'analyser. C'est pas de dire il est crédible, le succès, etc.
Mais malgré tout, c'est assez rare quand même qu'un journaliste éditorialiste.
Il y en a eu. Noël Mamère, elle a été. Dominique Baudis a été candidat aux européennes.
Enfin, c'est vieux. Hein. C'est...
Oui, pardon.
Non, mais vous avez raison. Mais c'est vrai que c'est assez...
l'histoire politique. Et dans beaucoup d'autres pays, il y a même des journalistes qui deviennent président de la République, etc.
C'est vrai.
Ça arrive. Donc c'est ça arrive.
Allez, on retourne du côté des internautes.
Oui, je vais prendre cette question d'Alexandre. Aimeriez-vous arbitrer le débat d'entre-deux tours de la présidentielle?
Ah, c'est une bonne question.
La prochaine.
C'est vrai que souvent, 22... c'est France Télévisions, TF1 qui se partagent un petit peu le gâteau.
Je ne l'aimerais pas.
Ouais. C'est un exercice que vous n'avez jamais fait.
Non.
Ouais.
Et pourquoi pas d'ailleurs? Pourquoi ce sont jamais les chaînes d'information continue qui finalement parlent de politique à longueur d'année qui ne jouent pas un
petit peu ? Je pense que c'est une proposition qui sera faite aux candidats absolument et je pense que cette année il n'est pas du tout impossible qu'il y ait plusieurs débats de deuxième tour et qu'à ce moment-là les chaînes d'info soient mobilisées et ce serait assez logique.
Alors j'aimerais juste que l'on regarde un petit peu le visuel que BFM TV a créé à l'occasion de ce débat parce que ça m'intéresse d'avoir votre avis. Deux visages à la mine assez grave situés de part et d'autre de l'affiche avec en plein milieu des lettres en capitale. Ça fait vraiment penser à une affiche façon combat de boxe. Est-ce qu'aujourd'hui, le débat politique à la télévision, c'est devenu un petit peu un combat de boxe ?
Je vous ai répondu avec la primaire écologiste, non ?
C'est vrai. Mais c'est assez rare, hein. Il faut reconnaître. C'est d'ailleurs pour ça que je vous ai posé la question.
Je vais vous dire, on a fait un bon score et on a eu de très, très bons retours sur la qualité. Donc, moi, je ne suis pas absolument sûre qu'un débat doit être un match de boxe.
D'accord.
Je pense que, y compris même ce deuxième tour des écologistes, je pense qu'il doit être aussi informatif, il doit être pédagogique, il doit être respectueux, courtois et en même temps animé, vif, etc. Donc, on verra. Mais non, moi, je ne suis pas sûre qu'on a à vendre les choses comme des combats. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'agressivité, il y a beaucoup de violence dans la vie quotidienne. Notre travail n'est pas seulement de la relayer, il est aussi de donner des instruments pour une forme d'apaisement et d'essayer de trouver des lieux de consensus et de débat. Et pas obligatoirement d'accord, mais de respect mutuel, de discussion, de retrouver le goût d'une discussion, et pas seulement d'un affrontement. Et donc, c'est ma démarche, en tout cas, personnelle. Hein. C'est d'abord le respect, l'écoute, ce qui n'empêche pas, et au contraire, l'impertinence. Et comme le dit Albert Londres, de porter le doigt dans la plaie, parce que c'est le rôle du journaliste. Ouais. Mais tout dépend comment on le fait.
Alors, en parlant de visuel, je suis allé voir en replay l'émission que vous portez du lundi au jeudi sur LCI. On prépare un petit peu les interviews ici, quand même. On va en parler tout de suite, d'ailleurs, de cette émission. Mais d'abord, je voudrais qu'on voit cette image. On vous voit devant l'Élysée avec le titre de votre émission, Routel Krief 2022. On se dit que si vous voulez vous présenter, c'est la fiche de campagne parfaite pour vous, non ?
Bon, c'est évidemment un clin d'œil. Un clin d'œil qui était que comme je suis entre 20h et 22h et que c'est 2022, c'était ça le clin d'œil. C'était une façon de dire qu'on allait aussi parler politique et qu'on était sur la campagne présidentielle, mais on n'est pas du tout que sur la campagne présidentielle, car tout est politique. Lorsqu'il y a cette affaire du contrat des sous-marins avec l'Australie, on est dans la politique. Lorsqu'on est sur les vaccins, on est dans la politique en quelque sorte, etc. etc. Donc, c'est une façon de positionner, mais c'était plus un clin d'œil sur 20h-22h.
Vous avez déjà été tenté d'entrer en politique dans toute votre carrière ?
Jamais.
Parfois, on sait qu'il y a d'anciens journalistes qui...
On l'a vu, on en a parlé.
Notamment
mais non, jamais. Moi, je suis extrêmement attachée à ma liberté, à mon indépendance, à ma distance par rapport aux événements et aussi à ma vie personnelle et à ma vie privée. Et quand on devient politique, il n'y a pas grand-chose qui vous appartient après.
Allez, Sarah, une autre question ?
Oui, êtes-vous à l'origine du recrutement de Paul Laroux-Turou ? C'est Michel qui pose la question et c'est vrai que l'ancien journaliste de Quotidien vous a rejoint à la rentrée.
Alors, je ne suis pas à l'origine directe, mais j'ai le plaisir de dire qu'il a choisi entre plusieurs propositions de venir et sur LCI et dans notre émission. Et donc, j'en suis ravie parce que c'est un plaisir de travailler avec lui au quotidien. Ouais. On échange, il a toujours un regard espiègle, intelligent, fin, d'analyse et en même temps de recul. Et donc, je suis ravie de son arrivée. Et c'est lui, en quelque sorte, qui nous a choisis et on est ravis. Ouais.
Alors, ce n'est pas vous mettre sur un piédestal que de dire que vous êtes un pilier de l'information en continu. On en a parlé tout à l'heure avec notamment la création de LCI en 1994. Vous avez également, vous êtes d'ailleurs le premier visage qui est apparu à l'antenne de BFM TV. Ça, c'était en novembre 2005. Exactement. Est-ce que vous êtes fier aujourd'hui de ce qu'est devenu l'information en continu en général ? Parce que ça a beaucoup bougé, on en a un peu parlé tout à l'heure.
Je ne sais pas si j'ai à être fière ou pas être fière. C'est pas... Vous savez, moi, je ne suis pas... je donne pas de repères moraux. Je ne suis pas une donneuse de leçons. Je ne suis pas quelqu'un qui donne
84...
des avis. Enfin, oui. Je veux dire, ça ne m'intéresse pas. Moi, je vis les choses. Je suis dans l'action. Je vois les évolutions. J'essaye de rester moi-même. J'essaye d'être fidèle à mes principes, d'essayer de faire de l'info et d'essayer de respecter mes interlocuteurs. Et bon, l'évolution des chaînes d'info, on le voit, le paysage bouge, les positionnements bougent. Ça correspond à des attentes. Hein. On travaille aussi avec un public. Les choses vont plus vite. Il y a les réseaux sociaux. Il y a une compétition de toutes sortes d'émissions. Donc, on s'adapte. Et l'important, c'est d'être fidèle à ses valeurs et d'être fidèle à soi-même.
Et vous aviez anticipé cette trajectoire que prend aujourd'hui l'information continue en 1994. Vous aviez une idée précise de ce qu'allait devenir cette matière qui était l'information continue et qui était nouvelle à l'époque.
Non, sincèrement. Bon, évidemment, j'étais allée à CNN, j'étais allée à Sky News. J'avais rencontré les journalistes de ces deux chaînes, en l'occurrence, qui étaient les modèles de l'époque. Maintenant, il y a beaucoup d'autres chaînes d'information continue. Ouais. Il y a Fox News, il y a CNBC, il y en a beaucoup d'autres hein, en Amérique et puis dans d'autres pays. Donc, tout a évolué dans le reste du monde aussi.
D'ailleurs, vous parliez de Fox News. Il y a une chaîne aujourd'hui qu'on compare beaucoup à Fox News en France. Il s'agit de CNews, hein, cette chaîne d'information continue dont la ligne éditoriale est parfois débattue, parfois trop conservatrice. Quel regard vous portez sur le nouveau succès de cette ancienne iTélé, hein, puisque c'était iTélé à l'époque. Qu'est-ce que vous en pensez?
Encore une fois, moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi le succès.
Oui.
Je n'ai pas à juger le succès, j'ai à comprendre le succès. Et en comprenant le succès, j'essaye d'intégrer cette compréhension des choses dans ma pratique journalistique. Et donc, je vois qu'il y a une certaine attente sur certains sujets. Après, qu'il y a un excès du traitement et une façon de voir la vie et le monde par un seul prisme, ça, ce n'est pas notre choix. C'est tout, c'est leur choix.
C'est une chaîne d'opinion ou d'information en continu, selon vous, CNews ?
C'est le choix de CNews de se positionner, mais c'est vrai qu'on voit que la vie quotidienne des Français n'est pas toujours traitée sous tous ses angles, mais sous certains angles, qui sont importants. Loin de moi l'idée de penser qu'ils ne le seraient pas. Mais heureusement, on a beaucoup d'autres choses dans notre vie que l'insécurité, les inquiétudes sur l'identité ou sur l'immigration. Mais ça existe, hein, loin de moi l'idée de pas en parler ou de ne pas les considérer. Mais on a des questions de vie quotidienne, de pouvoir d'achat, de chômage, de loisirs, de sport, de, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc, mais je respecte vraiment sincèrement chaque choix. Et dans le fond, c'est un paysage pluraliste qui est offert au spectateur. Il fait son choix.
Allez, Sarah, une dernière question et après on passe à
une dernière question. Alors je prends celle de Pascal. Aimeriez-vous un jour être à la tête d'une rédaction ? Alors je pense que cet internaute fait référence aux rumeurs de votre arrivée l'année dernière sur Public Sénat. Et puis finalement, ça a été Christopher Baldelli.
Oui. Non, c'était complètement faux. Il n'a jamais été question que j'arrive sur Public Sénat. C'est typiquement la rumeur. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir le trajet d'une rumeur qui était fondée sur rien du tout. Et non, je pense qu'aujourd'hui, j'ai fait mes choix. Et mes choix, c'est d'être à l'antenne, d'animer et d'arbitrer et d'être journaliste des émissions. Et donc voilà, pour le moment, c'est clairement pas mes choix.
Eh bien justement, on va parler de vos choix, vous allez devoir en faire, ça s'appelle « En toute franchise », c'est notre dernière rubrique. Alors, en toute franchise, hein, c'est une des plus sucré-salé que vous avez connu il y a quelques mois maintenant, on va vous poser une série de questions, il faudra que vous y répondiez avec le plus de franchise possible. Quel est le plus beau souvenir de votre carrière, s'il n'y en avait qu'un seul, qui restera jamais gravé dans votre cerveau ?
C'est une question très difficile, parce qu'il y a moi, j'ai une photo, chez moi, c'est une des seules de photos professionnelles, parce que j'en ai fait beaucoup, avec Meryl Streep, l'actrice américaine. Je l'ai interviewée et au lieu que ça dure 10 minutes, un quart d'heure, comme beaucoup avec les acteurs américains, ça a duré 3 heures.
Ah oui.
Et donc j'ai une photo avec elle qui est dans mon bureau chez moi.
Et pourquoi cette rencontre était-elle particulièrement
marquante ? Mais franchement, j'étais stupéfaite. C'était une vraie belle rencontre avec une magnifique actrice. Et on a parlé de tout. Et puis après l'interview elle-même, on a continué à parler. Donc il y en a plein d'autres. Je pourrais vous en donner beaucoup d'autres. Hein. Je peux avoir des interviews aussi très politiques qui ont été des moments incroyables avec des personnalités très différentes. Mais ça, c'était un moment de grâce, oui. Mmh.
Et quel est votre pire souvenir après le meilleur ?
Bah oui, forcément, vous imaginez bien.
Bah, y a des moments où il y a des invités qui ne veulent pas du tout répondre à une question, où c'est très conflictuel et très dur. Très dur, ça ne me dérange pas, c'est intéressant. Mais quand quelqu'un louvoie et ne veut absolument pas répondre aux questions et qu'il ne se passe rien sur un plateau et que d'une certaine façon, il y a quelqu'un qui vous déçoit parce qu'il n'est pas... et là, je ne peux pas donner de nom.
Ah, dommage. Ah, ça s'appelle en toute franchise, Rotel Krief. Vous devriez...
Le joker, cette question.
Ok, d'accord. Vous n'avez le droit qu'à un seul joker. Hein. Quelle manie ou toque avez-vous avant d'entrer en plateau ? Est-ce que vous en avez déjà ?
Oui, alors, je fais parfois des micro-siestes.
Ah.
Et en maquillage, je me détends, vraiment, j'essaie de me concentrer, j'essaie de ne pas bavarder, j'essaie de lâcher prise pour avoir le maximum d'énergie, oui.
Est-ce que vous avez un mentor dans ce métier ?
Plusieurs. Michel Cotta était celle qui m'a choisie à TF1.
C'est votre marraine que vous...
Oui, c'est ma marraine. J'ai des personnalités extraordinaires. Anne Sinclair, évidemment, a été un modèle quand j'étais jeune journaliste. J'ai suivi beaucoup Christiane Amanpour sur CNN. Il y a beaucoup de femmes journalistes qui m'ont inspirée. Hein. C'est Christine O'Crane à sa façon. Et c'est assez classique de dire ça, mais c'est vrai qu'elles ont été des... Mais Catherine Ney est une personnalité que j'aime beaucoup aussi parce que je l'ai vue... son humilité m'avait inspirée parce que quand je démarrais, elle était déjà une star et elle en allait faire un reportage et elle prenait des notes comme une débutante et j'ai trouvé ça extraordinaire, j'ai trouvé ça tellement juste et tellement... Bon voilà, il y a beaucoup, puis il y a évidemment beaucoup d'hommes journalistes, là j'ai donné les femmes parce que c'était important, mais il y a beaucoup d'hommes journalistes qui m'ont aussi inspirée. Sinon j'ai beaucoup d'amis journalistes aujourd'hui que je respecte beaucoup, David Pujadas, Patrick Cohen et bien d'autres. Et puis dans les filles, dans les femmes journalistes aujourd'hui, il y a Léa Salamé ou Caroline Roux ou Sonia Mabrouk et Laurence Ferrari sont des filles que je trouve très chouettes. Hein, je veux dire, voilà, je vis cette profession comme aussi un partage d'expérience et c'est un si beau métier qui, hélas, est devenu plus difficile aujourd'hui pour les jeunes. Mais moi, je suis à l'écoute et j'écoute beaucoup mes confrères et mes consoeurs. Je respecte beaucoup leur boulot.
Si vous aviez le pouvoir de faire renaître une seule personne, qui choisiriez-vous ?
Renaître ?
Renaître, exactement.
Une question trop difficile.
C'est trop difficile.
C'est une question trop difficile.
Ah, on vous prend un peu de courant. Ouais. Allez, Sarah.
Si vous n'aviez pas été journaliste, quel métier auriez-vous exercé ?
J'ai jamais envisagé autre chose que de faire du journalisme. Depuis l'âge de 10 ans, j'ai voulu être journaliste.
Ah oui, c'est étonnant ça. Même petite fille, vous ne rêviez pas d'être, je ne sais pas, des métiers de rêve de petite fille. Ça
Non, j'ai toujours voulu être journaliste. Je crois que j'ai toujours eu envie d'être une forme d'aventurière et j'étais très curieuse. Et puis j'avais envie de parcourir le monde. Puis j'avais envie de défendre des causes. Et puis donc alors oui, j'aurais pu être avocate, j'aurais pu être diplomate, j'aurais pu. Il y a beaucoup d'autres métiers maintenant que j'ai découvert. Depuis, hein. mais j'ai eu la chance inouïe de faire ce que j'avais envie.
Qu'est-ce qui vous déplaît le plus dans votre caractère ?
Ce qui me déplaît le plus dans mon caractère, je suis quelqu'un d'assez entière et donc assez stressée, assez... Ouais. Oui, c'est-à-dire que je ne suis jamais contente et je ne suis jamais sereine, en fait.
Hein. Perfectionniste, c'est ça ?
Oui, ouais. et ça peut être assez fatigant.
Comment vous arrivez à gérer ça, d'ailleurs, ce stress, cette angoisse ?
Je considère que c'est mon moteur, mais c'est vrai qu'à un moment, il faudrait que ça s'arrête. Hein.
Ah, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Il faudrait que ça s'arrête, je m'arrête là-dessus.
Non, mais
est-ce que ça veut dire que
le stress,
ça. Ah, d'accord. Vous allez raccrocher les gants un jour, parce que c'est intéressant, ceci dit. On pose cette question-là. De
c'est pas prévu pour le moment.
D'accord, vous n'avez pas spécialement envie. Vous n'avez pas de date limite, comme certains invités viennent sur ce plateau, nous disent « Moi, 65 ans, c'est terminé, j'arrête. » Vous, c'est pas ça.
C'est pas prévu pour le moment.
Pas pour le moment.
Et allez, pour terminer, quel est l'objet le plus précieux que vous possédez ? Sentimentalement ou...
Oui, il y a des objets qui me sont donnés, qui m'ont été donnés par mon mari, par mes parents, par mes filles. Ça, ce sont les objets les plus importants de ma vie parce que ce sont les personnes les plus importantes de ma vie, c'est tout.
Merci beaucoup, Rotel Krief, pour votre franchise, pour toutes les informations que vous nous avez données. Je rappelle que vous présentez donc le deuxième débat de la primaire des écologistes. C'est ce mercredi à 20h45 sur LCI. Je rappelle également que vous êtes du lundi au jeudi dans 22h. Rotel Krief, ça, c'est à 20h, jusque 22h. Vous avez beaucoup de rendez-vous sur LCI. Effectivement, je ne m'y perds pas, tant mieux. Merci Sarah d'avoir fait l'intermédiaire entre les internautes et ce plateau. Et nous, on se retrouve demain avec une nouvelle invitée de France Télévisions, cette fois-ci, qui anime une quotidienne qui s'appelle Ça commence aujourd'hui. Elle cartonne chaque après-midi sur le service public. Elle vient nous présenter une nouvelle émission en prime time qu'elle va co-animer avec Michel Simès. Ça suffira. Ça s'appelle Voyage au centre de la mémoire. Demain, nous recevrons Faustine Bollaert sur ce plateau. J'espère que vous serez nombreux pour lui poser toutes vos questions. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour un nouveau Buzz TV.